Les rendez-vous de midi, Pierre-François Durbecq et Jean-Paul Limagne, vos invités victoriens.
Oui, dans ces rendez-vous de midi, on va parler d'une première en Europe. Rien que ça, puisqu'on reçoit le président de l'association LCM6 Higgins Boat Project, Jean-Paul Limagne. Jean-Paul, bonjour.
Bonjour.
Avec vous également, Pierre-François Durbecq, membre de l'asso.
Bonjour.
Bonjour. Alors, derrière ce nom, LCM6 se cache non moins, rien de moins qu'une authentique barge américaine de la Seconde Guerre mondiale que vous restaurez avec les passionnés de votre asso. Un véritable trésor dans le nord-ouest Vendée, puisque c'est le seul exemplaire en Europe capable de naviguer. Alors déjà, je vais vous demander chacun de vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre-François ?
Alors moi, je travaille en bureau d'études dans la menuiserie sur Chaland. Et je suis dans cette association depuis sa création en novembre de l'année dernière.
Oui, on reparlera justement de la création de cet asso un petit peu plus tard dans l'émission. Et vous, Jean-Paul ?
Moi, je suis artisan sur l'île de Noirmoutier.
D'accord, vous faites quoi ?
Je répare de la petite mécanique, des tondeuses à gazon, des choses comme ça. Puis quelques trucs un peu spéciaux, comme des moteurs étranges qui vont sur des chars, sur des avions. Enfin bon, oui. Passionné de vieille mécanique depuis que je suis gamin.
Ça aide, je pense, pour restaurer ce bateau. J'aimerais d'ailleurs que vous m'en disiez un peu plus sur l'histoire de l'embarcation. Donc, quand est-ce qu'il a été construit déjà celui-ci, celui que vous possédez ?
Alors, ce LCM, il a été construit en France en 1951. Donc il a été construit sous licence américaine, c'est-à-dire qu'il est en pousse, c'est le même qu'un modèle américain, les machines sont les mêmes, les arbres d'hélice, tout est exactement identique. D'accord. Les seules petites modifications, parce que c'était une commande de la marine nationale.
Française, donc
juste à la fin de la guerre, parce que c'était des outils qui avaient été donc récupérés via le plan Marshall, qui était le reste de l'armée donc américaine, et on s'est rendu compte que c'était des outils tellement bien qu'ils étaient vieillissants, donc on a fait faire exactement les mêmes. Donc sous licence Higgins, les quelques modifications qu'ils voient vraiment, c'est la timonerie qui n'est pas du tout celle d'origine, parce que la timonerie d'origine, c'était un simple truc carré et même pas de toit. C'était des navires qui étaient faits pour débarquer.
Donc, d'accord.
Alors que là, ils ont servi pour des tas de choses.
L'utilité première de ce genre d'embarcation, c'était quoi ? Par exemple, ça servait à l'US Navy, donc la marine américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, Pierre-François ?
Alors, c'était des engins absolument que de logistique, qui permettaient de charger une cargaison en mer et le débarquer le plus rapidement possible sur des plages où il y a très peu d'eau et sous le feu ennemi.
D'accord.
Absolument que logistique.
Et justement, il y a quand même une grosse histoire, une grosse dimension historique avec cette embarcation, puisque vous me disiez avant l'émission que le débarquement en Normandie s'est presque fait grâce, ou autour en tout cas, la stratégie de ces embarcations.
Ah, tout à fait, oui, parce que Andrew Higgins, qui est l'inventeur de ces bateaux-là, qui était un industriel dans les années 30, mais un industriel américain, quoi. Donc vous le jetiez par la porte, il rentrait par la fenêtre. Ils étaient souvent comme ça dans ce pays-là. Et voyant la guerre donc arriver, il a développé ses navires. C'était un ingénieur qui était originaire de la Nouvelle-Orléans. Donc en Nouvelle-Orléans, quoi, il y a des marais, enfin on voit tous
beaucoup d'eau, quoi. Il faut pouvoir se déplacer.
Beaucoup d'eau avec très peu de fond. Donc ils avaient déjà historiquement des bateaux à fond plat depuis toujours.
D'accord.
Et ils se sont dit, Higgins s'est dit, ben ces bateaux à fond plat, on pourrait peut-être les modifier, les muscler pour pouvoir servir pour cette guerre qui arrive donc. Et il a donc mis au point un tas de navires de ce style-là qui ont permis une chose, c'est de pouvoir débarquer sur une plage ouverte. Du matériel, des hommes, du matériel militaire et autres. Et donc, à la fin de la guerre, il y a le général Eisenhower qui était le grand chef des alliés, qui a dit, si M. Higgins n'avait pas été là, la stratégie de la guerre aurait été totalement différente. Parce que, vous imaginez, pour libérer un pays qui est occupé, le libérer par la mer, du fait que la France est le pays d'Europe où on a le plus de mer, on ne pouvait rentrer que par là. Et si vous rentrez dans un port, c'est même pas la peine.
Oui, c'est un petit peu
l'ennemi est là, vous risquez pas de rentrer. Quand on voit les ports, même historiquement, à La Rochelle et autres, c'est vraiment des endroits de guerre. Donc la solution a été de se poser sur une plage où il n'y avait rien. Et grâce à des navires comme le LCM, on a pu très rapidement débarquer des soldats, du matériel, etc., etc. Donc ça a changé un peu la face du monde. Et si le débarquement, il a la tête... qu'on connaît, c'est beaucoup grâce à des navires comme celui-ci.
Oui, c'est une embarcation vraiment chargée d'histoire, et le modèle que vous avez récupéré n'a pas été utilisé lors du débarquement, puisque donc on l'a dit, il a été construit en 1951, mais ça reste le même modèle exact. C'est un véhicule chargé d'histoire. On est à la radio, donc on n'a pas d'image. Alors, j'aimerais que l'un de vous deux me décrive un peu la barge. À quoi elle ressemble en termes de taille, la couleur, la forme?
Eh bien, oui, une grosse boîte à chaussures. Oui. C'est rectangulaire. C'est très moche, hein, faut être réaliste. C'est une grosse boîte à chaussures carrée. Enfin non, rectangulaire. Mmh. Rectangulaire, relativement longue, qui fait 17 mètres et quelques de long, qui fait 4 mètres 50 de large, qui a un fond qui est totalement plat.
D'accord.
Voilà la tête que ça, quoi, Pierre.
Et bien sûr, en acier.
Et bien sûr, donc en acier.
Tout en acier. Donc, et du coup, la couleur, pareil, c'est une couleur acier.
Bien sûr. Non, la couleur gris navy.
D'accord.
Exactement. Comme tous les bateaux de guerre, aussi bien le porte-avions que le canot de sauvetage était en fameux gris navy.
Et alors, il pouvait transporter jusqu'à combien en termes de poids de cargaison à l'époque?
Alors, c'est des navires, il y a eu des tas de modèles, mais celui-ci, le LCM, qui veut dire Landing Craft Mechanized, donc vraiment à l'origine conçu pour trimballer du matériel.
Landing.
Voilà, ouais, voilà. Donc du matériel, celui-là, il a une charge utile de 30 tonnes.
D'accord.
Il pèse 30 tonnes et il peut porter 30 tonnes.
À l'origine, il peut porter son poids.
Soit l'équivalent d'un petit char d'assaut.
Voilà, d'accord. Donc il a été à l'origine conçu un peu dans la rapidité, parce que quand Higgins a fait le LCVP, celui que tout le monde connaît, celui du film Soldat Ryan, où il y a les soldats dedans et où oui. ils se font tous tuer, celui-là c'était le petit, celui qui était vraiment donc...
Justement pour transporter les hommes, voilà. Plus que les matériaux, les véhicules.
Plus que le matériel, parce que le LCVP on pouvait mettre une Jeep dedans, mais ça s'arrêtait là. Et très vite ils se sont dit, ben, faut vite qu'on puisse amener des blindés sur les plages, donc ils ont créé très vite le LCM6. Qui a été conçu pour pouvoir mettre un char Sherman de 30 tonnes. Puis on s'est rendu compte que ça rentrait un peu aux chausse-pieds dedans. C'était un peu compliqué de mettre un char Sherman. Et c'était pas très manœuvrant, donc il a servi à trimballer des tas et des tas de trucs.
Et on peut l'imaginer là bien fendre les vagues, débarquer sur une plage. Et alors, quelle histoire de votre LCM? À quoi a-t-il servi pendant près de 70 ans, du coup, vu qu'il n'a pas fait la guerre à proprement parler?
Alors, il a été construit en 51 sur une commande de la marine, vraiment pour prendre la suite de ces navires-là, parce qu'on s'est rendu compte que c'était tellement pratique. Il a été, celui-là, construit à destination de l'escadron de transbordement d'un régiment du train qui était basé à La Palisse.
D'accord.
Voilà, donc il a été construit pour eux, et c'était les régiments qu'on appelait de transbordement, parce que le régiment du train, on a tendance à voir tout ce qui est terrestre. Mais il n'y a pas que tout ce qui est terrestre, il y a aussi toute la gestion de ce qui peut arriver par la mer.
Par la mer, pour ensuite le transporter
voilà,
en train.
Et donc passer de la mer sur la terre. Donc là, il y avait des escadrons très spécifiques qui s'appelaient les escadrons de transbordement, sur lesquels c'est des navires qui ont été beaucoup, beaucoup utilisés. Quand on est allé avec Pierre-François dans les archives, c'était à Châtellerault, dans les archives de la marine, alors là, des boîtes et des boîtes de papier.
Ah bah oui, j'imagine.
Et on a vu que des navires comme ça, construits sous licence comme le LCM6, qu'on a donc ici, on en a retrouvé, je crois, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, il y en avait partout. Hein.
D'accord. Ces navires-là ont été absolument utilisés partout, aussi bien en Algérie qu'en Indochine par la suite.
Et alors, vous l'avez retrouvé comment, ce navire, déjà quand, où?
Alors, c'est un navire qu'on connaissait depuis longtemps. Parce que on est dans le matériel militaire comme ça, de cette époque-là, depuis très très longtemps. Et il y a un collègue un jour qui me dit, mais tu sais qu'à l'île-Dieu, il y a une barge de débarquement. Je dis, ah bon, il y a une barge de débarquement.
Donc, faut aller voir ça.
Voilà, donc on est allé à l'île-Dieu, on a vu la barge de débarquement. Donc effectivement, je vous parle de ça, il y a à peu près, ouais, il doit y avoir 15 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Donc on se renseigne et on rencontre le propriétaire, l'ancien propriétaire qui s'appelle Philippe Buchoul, qui a utilisé ce bateau pendant toute sa carrière, et qui est là, c'est son fils qui a pris la suite de sa boîte et qui fait du recyclage sur l'île Dieu. Donc la vieille bagnole cassée, la ferraille, le ci, le ça, tout ça, donc c'est lui qui gère ça sur l'île Dieu. Et à l'époque, il transportait toute cette ferraille sur le continent
grâce à la barge.
Grâce à cette barge. D'accord. Il avait racheté ça au domaine dans les années 80-81. Il avait racheté ça au domaine, donc à l'époque, le bulletin des domaines, quand on est des passionnés comme nous, c'est un petit bouquin qu'on recevait tous les 15 jours, et c'est l'État qui se débarrasse de tout ce qui est en trop. Donc on trouvait des jeeps, des camions, des tas de trucs. Et donc il a trouvé ça, il a racheté ça un peu au hasard, en même temps qu'il montait son entreprise de recyclage sur l'île Dieu en 81. Donc j'ai rencontré le personnage qui est un type extraordinaire, génial. C'est vraiment grâce à lui que ce navire existe toujours.
D'accord, parce qu'il s'en est bien occupé.
Il s'en est très bien occupé.
Il tient 70 ans.
En 2005, il a fait beaucoup de travaux dessus. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la coque qui a été refaite en 2005. C'est ce qui a permis qu'elle arrive jusqu'aujourd'hui. Parce que de toutes ces barges dont Pierre-François nous a raconté, aujourd'hui, il n'y en a plus une. On a vraiment cherché partout. Et c'était en acier. Donc là, il y a Pierre-François qui va me dire que ça vieillissait quand même très vite.
Comme tout le monde le sait, l'acier dans l'eau de mer vieillit très mal. Oui. Donc certaines portions de la barge sont malheureusement bien malades. C'est pour ça qu'on envisage bientôt sa restauration.
Justement, on va en parler un petit peu plus tard, juste avant une pause musicale. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous poser la question. Il y a une question qui me vient. D'où ça vous vient, vous deux, cette passion pour ce genre d'objet historique,
Pierre-François?
Ouh, misère. non, ma passion vient plutôt... je suis passionné de tout ce qui est technique, vieille mécanique, ingénierie, et aussi d'histoire humaine, les gens qui étaient derrière tout ça. Et le croisement de ces deux passions-là me ramène pendant ces périodes où les hommes et le matériel vivaient des moments très durs, très compliqués. Et c'est comme ça que je me suis passionné sur cette période, sur ce genre de matériel.
Oui, vous me l'avez dit, c'est tant difficile, la Seconde Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, amène toujours à des innovations techniques. Et vous alors, Jean-Paul?
Je crois que tu as résumé dans les très très grandes lignes et c'est à peu près ça. Moi j'ai découvert ça quand j'étais tout gamin, quand j'avais 14-15 ans, parce que je suis originaire du centre de la France et je connaissais des gars qui allaient à la chasse avec des vieilles jeeps. Et d'accord. J'ai découvert cet engin extraordinaire parce que c'est d'une simplicité, d'une efficacité qui est incroyable. Et je suis tombé là-dedans un peu par hasard et puis après en vieillissant je me suis intéressé donc à son histoire et à tout ce qui tourne autour. Donc... on est tombé, personnellement, quoi, ça a commencé par une Jeep. Il y a Pierre-François qui a totalement reconstruit un petit scooter qui était parachutable à l'époque. Il y a eu à l'époque une foultitude d'inventions extraordinaires. Mmh. On a refait un Piper, donc un petit avion d'observation. On se rend compte dans ce matériel-là, cette intelligence humaine qui était faite, on ne sait pas si c'est le hasard, si c'est vraiment, je pense que c'était des équipes qui avaient cette habitude de travailler ensemble et ils ont créé en très peu de temps des engins qui sont extraordinaires. Tous les 4x4 qu'on connaît aujourd'hui se sont tous inspirés d'un véhicule, c'est la Jeep.
D'accord, en tout cas on parlera de la restauration plus en détail et des fonds que vous récoltez notamment à travers la Fondation du Patrimoine. Mais avant ça, on fait une pause musicale proposée par notre animateur Thierry David. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Lucent, tout nouveau, et c'est très très beau, à tout de suite sur Dove.
All you wanna be is the darkness that I see. I don't know how to be there for me too. Cause you missed the other day, I was fine anyway. The love you have for me, yeah, isn't true. You are
Sur 9 pour votre rentrée, c'était Full For You avec Lucent. Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi aujourd'hui dans nos studios victoriens. Vous recevez Pierre-François Durbecq et Jean-Paul Limagne.
Oui, on est de retour. Du coup, ces deux passionnés s'occupent de la restauration d'une marge de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, on va parler de la restauration donc, de ce LCM-6, cette embarcation américaine. L'objectif, c'est de totalement la restaurer pour lui rendre sa splendeur d'origine. Mais quand vous l'avez récupérée, c'était quoi un peu les travaux à entreprendre? C'est quoi les objectifs?
Quand on l'a récupérée, on savait pas trop dans l'état où elle était, du fait qu'elle était dans l'eau depuis très, très longtemps. Oui. Malgré tout, comme je disais tout à l'heure, Philippe Buchoul, son ancien propriétaire, s'en était très bien occupé. Donc une grosse restauration qui avait eu lieu en 2005 l'avait quand même sauvée. Mais malgré tout, le temps a passé, donc on a fait faire une expertise et il y a à peu près entre 40 et 50 000 euros de travaux pour restaurer la coque, parce qu'il y a des épaisseurs de tôle qui commencent à être un peu limites. Du fait qu'on veut lui donner vraiment une seconde vie, c'est-à-dire lui donner 70 ans de plus, on a besoin de 40 à 50 000 euros, parce que c'est pas des travaux qu'on va pouvoir faire nous, c'est des chantiers spécialisés qui réparent quoi, des coques comme ça, il y a des règles.
Oui, bien sûr, j'imagine que vous faites appel à des spécialistes, il y a également des bénévoles de l'asso qui vont aussi donner un coup de main, j'imagine, Pierre-François.
Bien sûr, on a toute une armée de bénévoles qui nous aident énormément. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les petites mains, qui n'hésitent pas à venir pour aussi bien gratter la coque en hiver, faire les petites réparations. C'est grâce à ça que l'on s'est lancé dans cette restauration, parce qu'on était une équipe autour.
Et donc, une fois les fonds réunis, combien de temps ça devrait prendre la restauration au total ?
Si ça se passe bien, qu'on a un peu de disponibilité, parce qu'on a des métiers, donc en dehors de ça, je pense qu'en une année, si le planning est bien monté, le navire devrait être totalement restauré et présentable.
Ouais, justement, on espère voir la barge naviguer autour de l'île de Noirmoutier très bientôt. Elle mouille en ce moment même au port justement de Noirmoutier en Lille. Est-ce qu'on peut déjà venir l'observer ?
Tout à fait, elle est visible, elle est posée dans la vasière, sur l'entrée du port de Noirmoutier.
D'accord.
Donc il suffit de suivre le quai, pas du côté des bars et du château, de l'autre côté, et on arrive là au bout, et on a une très belle vue sur le LCM, qui reste quand même massif, vous ne pouvez pas la rater.
Et alors, Pierre-François, c'est quoi l'objectif à terme ? C'est d'en faire un lieu de visite, une sorte de musée flottant, ou plutôt de le faire participer
Une fois que ce bateau sera entièrement sauvé, parce que n'oublions pas que c'est la dernière, il faudra la faire vivre, c'est-à-dire on se mettra dans l'objectif de refaire vivre des expériences à des passionnés, à des historiens, de ce que c'était que le débarquement de Normandie.
Comme des reconstitutions, par exemple.
Exactement, c'est l'échouage sur les plages. Mais aussi, étant donné que le bateau est un vrai couteau suisse, on va se tourner vers d'autres associations pour d'autres prestations, comme du transport de fret, du bateau-comité, c'est un bateau qui est très utilisable.
D'accord. Et le public d'ailleurs a déjà pu admirer la barge lors d'une démonstration lors de la Fromentine Vintage Fun Cup à la mi-août. Alors notre animateur et directeur d'antenne Arnaud Guiteau m'en parlait ce matin. Il m'a dit que c'était un véritable moment d'émotion. J'imagine que ça l'a été aussi pour vous, pour tous les deux.
Ah oui, ça. Bon alors, déjà c'était une de nos premières grosses sorties. Donc dans le goulet de Fromentine avec le courant qu'il y a pour beacher, pour larguer une jeep sur la plage.
C'était technique, j'imagine.
Quand on n'est pas spécialiste, on est un peu inquiet parce que c'est quand même gros et massif. On se dit si on pose ça sur la plage, on va être mal. Mais c'était un super événement, c'était un bonheur de travailler donc avec Arnaud. Donc à l'origine, on aurait dû transporter les planches jusqu'à l'île Dieu. Malheureusement, la météo a fait que cette partie n'a pas pu se faire. Mais c'est vrai que le débarquement de la jeep sur la plage, ça c'était super chouette. Ouais.
C'est ce genre de prestation que l'on, à l'avenir, nous aimons faire plusieurs fois dans l'été.
Et pour vous, Pierre-François, quelle émotion ça vous procure quand la barge est à l'eau ?
Ouh. Ben, un sentiment de fierté parce qu'on arrive à la faire vivre, à la faire mouvoir dans l'eau, à l'utiliser. C'est une pensée aussi pour les gens qui étaient dedans.
Et au niveau du financement, alors, pour la restauration, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, donc, on a la chance d'être affilié à la Fondation du patrimoine. Donc les gens peuvent faire des dons en ligne. Donc on dégrève ça des impôts. Donc aujourd'hui, on doit en être à peu près 6 000 euros. Donc on n'est pas au bout. Parallèlement à ça, on a quand même des fournisseurs. On a un fournisseur de peinture qui s'appelle Comus, que je me permets de citer, qui nous fournit la totalité de la peinture. Il y en a quand même pour à peu près 25 000 euros de produits. Donc ça, c'est déjà énorme. On a des collègues qui font du sablage, qui sont en train de négocier avec leurs fournisseurs pour avoir des tonnes de sable, pour pouvoir sabler. Donc aujourd'hui, financièrement, c'est sûr, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout de nos 40 000 euros. Mais malgré tout, le bateau est en attente de classement en BIP, bateau d'intérêt patrimonial.
D'accord.
Donc on s'est rendu compte, en rentrant dans ce monde de bateaux, qui avait plus des bateaux à voile et des bateaux en bois, qui en arrive avec notre boîte à chaussures flottante grise avec des gros moteurs diesel qui font du bruit. Je me suis dit, on va se faire foutre dehors. Pas du tout, pas du tout. Les gens sont très sensibles au patrimoine et ça, ça fait plaisir. Donc on reste optimiste. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que refaire un bateau de 17 mètres en bois, c'est 400 000 euros. Nous, notre truc en ferraille de la même taille, c'est 40 000. On est vachement raisonnable.
Oui, oui, j'imagine. Raisonnable, c'est, je ne sais pas si c'est le terme, parce que c'est un petit peu un projet fou que vous entreprenez. Mais justement, j'ai envie de vous demander quels seront les prochains temps forts où l'on pourra admirer l'embarcation.
Alors, les prochains temps forts, c'est les journées du patrimoine qui ont lieu au mois de septembre, là, le 16 et le 17. Donc, le navire sera exposé, visitable au port de Noirmoutier. Donc au port de Noirmoutier, durant les deux jours, il y aura la petite équipe avec le calot blanc que vous avez sur la tête là. Donc il y aura toute l'équipe qui va faire... ils sont joyeux tous, hein. Donc visitez le bateau, c'est pas fragile, vous pouvez garder vos chaussures pour monter dessus, il n'y a pas de souci. C'est le seul bateau que je connais où on peut faire un barbecue à l'intérieur sans risquer de foutre le feu, parce que c'est tout en acier. Non, c'est très sympa. Donc on est aux journées du patrimoine au port de Noirmoutier, et on va essayer, si la météo le permet, de le mettre à l'estacade du Bois de la Chaise le dimanche à la marée haute.
Oui, ce sera encore plus
pour pouvoir, si la mer est belle, on ira faire des petits tours. Enfin voilà quoi, ça va être une belle fête.
Je pense que nos auditeurs, s'ils viennent vous voir, vous pourrez vraiment leur expliquer, leur montrer votre passion. On le sent, hein, tous les deux, vous parlez avec passion de tout ça. En tout cas, ici à 9FM, on a hâte de découvrir ça également. Je pense qu'on sera au rendez-vous. Merci Jean-Paul Limagne et Pierre-François Durbecq d'être venus dans cette émission. Donc on le rappelle, vous êtes membre de l'asso LCM6 Higgins Boat Project. On vous souhaite de la réussite dans la suite de la restauration. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.